The one thing we need more than hope is action.
HE10, penser la conception technologique à partir du livre Prendre soin des milieux, paru aux éditions Matériologiques.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur graphite94.9 et graphite.net sur le web. Je suis Stéphane Crozat et je suis en direct en studio avec Violette Dedour-Vergne, Mathis Leroy, Gaëtan Hiblot, Noam Seret et Marine Bouza. Bonjour à toutes et tous. Alors, nous sommes ici réunis dans le cadre du cours de l'Université Technologique de Compiègne HE10, Penser la conception technologique. Ce cours est basé donc sur un manuel écrit par des enseignants de l'UTC, de l'UTT et de l'UTBM. On peut retrouver un peu plus d'informations sur le site librecours.net. Aujourd'hui, par exemple, en cours, on a parlé de technologies zombies en opposition à des technologies vivantes, pour pointer en quelque sorte des technologies qui seraient déjà mortes et qui seraient également mortifères. Alors, on va se retrouver tous les jeudis pendant un mois, entre 10h30 et midi, pour 10 émissions qui vont étudier des cas de conception de techniques modernes à l'aune des concepts que l'on manipule dans ce cours. Les concepts, je vais pas vous les détailler ici, hein, les étudiants vont vous les introduire petit à petit, mais on parlera d'histoire des trajectoires technologiques, de constitutivité technique ou encore de méthodes qui permettent justement de tenir compte de ces concepts. Alors les étudiants, qu'est-ce qu'ils font de leur côté ? Eh bien, ils s'approprient ces concepts et ils les mettent en perspective avec certaines techniques. Alors par exemple, on parlera de ferme verticale, de méga-bassine ou de vidéosurveillance algorithmique. Mais sans plus attendre et pour rentrer directement dans le sujet, eh bien, on va lancer le premier sujet, donc tirer dans le tas l'exemple des LBD.
Vous en avez assez, hein ? Vous avez assez de cette bande de racailles. Ben, on va vous en débarrasser.
Moi, je veux que vous ayez les équipements les plus modernes. Je veux ouvrir la police nationale française aux armes non létales. Je veux que vous ayez des armes dont vous puissiez vous servir.
Allez, défoncez-moi les gens qui sont sur la place du rond-point, là. Allez-y, on y va. Vous descendez et vous les mettez minables, là, sur l'affaire de votre parc, sur l'arrière de votre parc, là.
Je vais vous dire la chose suivante. On n'a pas eu de mort, ni d'un côté ni de l'autre. Le risque était là, il n'y a pas eu de mort.
Les extraits que vous venez d'entendre proviennent du documentaire Arte, Au nom du maintien de l'ordre. Vous aurez très certainement reconnu Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur sous Chirac, promettre à la police nationale l'introduction des armes non létales dans leur équipement. On entend également Laurent Nunez, soulagé qu'il n'y ait pas eu de mort lors d'une manifestation des Gilets jaunes. La juxtaposition de ces deux extraits interroge. Si les armes mises à disposition des forces de l'ordre sont non létales, pourquoi craindre des morts potentielles lors de confrontations avec des manifestants ? C'est cette apparente contradiction qui nous a poussé à étudier les armes non létales, ou ANL, et leur interaction avec le milieu dans lequel elles évoluent, celui du maintien de l'ordre. Pour ce premier épisode, nous avons décidé de nous focaliser sur un exemple d'ANL bien connu, le LBD. LBD, c'est l'acronyme de lanceur de balles de défense. Il en existe plusieurs types, dont les plus connus en France sont les flashballs et les LBD 40, celles aujourd'hui utilisées par les forces de l'ordre. Ces balles de défense, lancées par les LBD, ce sont des munitions en caoutchouc dont le diamètre varie en fonction des modèles. On estime que l'énergie maximale de cette balle peut atteindre les 200 joules, ce qui s'apparenterait à la sensation de recevoir un parpaing de 20 kg tombant de 1 mètre. Selon l'IGPN, le LBD permet d'interrompre les gestes agressifs d'un individu se situant à une distance maximale de 35 mètres. Le code pénal encadre son utilisation à des cas de violence commises à l'encontre des forces de l'ordre ou si elles ne peuvent défendre autrement le terrain qu'elles occupent. Dans tous les cas, cet usage doit être contraint à la pure nécessité et être une réponse proportionnée. Pour avoir le droit d'en faire usage, les forces de l'ordre doivent bien évidemment passer par une formation à l'issue de laquelle l'habilitation LBD est décernée si la cible a été atteinte 2 fois sur 5 tirs. Cette courte présentation que je viens de vous faire se base sur la théorie, sur l'encadrement de cette ANL par la loi et les institutions. Mais qu'en est-il réellement une fois cette arme déployée sur le terrain, dans les missions de maintien de l'ordre ? C'est ce que nous allons développer dans la suite de cette émission.
Un début de réponse aux questions de Violette peut être trouvé dans un retour historique sur l'origine du déploiement des LBD en France. Je vous propose d'éclairer ce récit à l'aide d'un concept qui est celui de milieu. Un milieu, c'est un ensemble plus ou moins homogène qui dispose de ses propres règles, de ses propres valeurs, de ses propres équilibres. Il n'existe pas un environnement commun, mais une multiplicité de milieux. L'enjeu est alors non pas de concevoir l'individu d'un côté et son milieu de l'autre, mais bien de penser les relations qui les unissent, de voir leur co-construction et leur évolution. C'est intéressant de regarder l'histoire des LBD à travers ce prisme, car c'est une histoire de la militarisation du maintien de l'ordre, mais aussi une histoire de transfert de milieu vers d'autres. L'ancêtre des LBD, les armes de contrôle des foules, ont été conçus dans un contexte militaire et colonial, notamment par les Britanniques, d'abord en Birmanie pour maîtriser les populations locales, puis massivement en Irlande du Nord contre les républicains dans les années 60. On en retrouve un peu partout dans le monde, sous le nom anglais de rubber bullets ou celui espagnol de balas de gomas. En France, les LBD apparaissent dans un contexte bien particulier. Dans les années 1990, les manifestations sont jugées moins dangereuses et l'intérêt du maintien de l'ordre devient la gestion de l'insécurité. Les LBD, sous la forme d'un premier modèle, le Flashball, sont introduits par Claude Guéant en 1995, alors directeur général de la police nationale, pour gérer des cas extrêmes d'urgence, la maîtrise d'individus isolés, en évitant l'emploi d'armes à feu. Le Flashball est présenté comme une arme anti-bavure. Son usage est alors réservé aux unités d'élite, comme le RAID ou le GIGN, et à la BAC, pour maintenir l'ordre dans les quartiers populaires. On assiste alors à un tournant, puisque c'est aussi à ce moment qu'est déclenché le plan Visipirate. Les militaires envahissent l'espace civil au nom de la lutte contre l'antiterrorisme. On s'habitue alors à voir des armes dans la rue, dans les aéroports, dans les gares, etc. Dans le même temps, les BAC, jusqu'alors exclusivement envoyés dans les banlieues de la capitale, se généralisent partout en France et emmènent avec elles leurs LBD. Voilà ici notre premier changement de milieu, du milieu militaire au milieu des forces de l'ordre, qui elles-mêmes deviennent plus présentes dans l'espace civil. Or, introduire des armes de guerre dans le terrain du maintien de l'ordre est loin d'être anodin et est révélateur d'un changement de paradigme. En 2002, Nicolas Sarkozy justifie la généralisation du flashball par la nécessité de reconquérir les banlieues, en disant « quand les policiers en sont équipés, les voyous ne viennent pas les chercher ». La rhétorique de la guerre et de la défense est exportée au domaine de la sécurité intérieure. En 2005, les émeutes et la mort de Ziad et Bouna sont l'événement déclencheur de la massification des LBD par ce même Nicolas Sarkozy. Au départ pourtant, la direction centrale des CRS refuse, jugeant l'emploi de ces armes inutile. Cependant, le nombre de policiers et de gendarmes disponibles pour le maintien de l'ordre baisse de 15% entre 2002 et 2015, alors qu'ils ont plus de missions. Le LBD est alors perçu comme une solution pour pallier le manque de moyens humains. C'est aussi en réponse à cette baisse d'effectifs que sont créées des compagnies départementales d'intervention, CDI, surtout chargées de la lutte contre les violences urbaines et les trafics de drogue, mais qui deviennent un élément central du maintien de l'ordre et seront équipées des LBD. Lors des Gilets jaunes, les polices urbaines, ces CDI, sont envoyées pour maintenir l'ordre lors des manifestations et rassemblements contestataires. Des unités comme la BRAVEM ou la BAC sont depuis quasi systématiquement réquisitionnées lors de manifestations et elles emmènent avec elles leurs méthodes militaro-policières. Ces unités appliquent les méthodes apprises lors de leur formation, formation adaptée au maintien de l'ordre dans les banlieues, à un contexte bien différent, qui est celui de la manifestation. Ce second changement de milieu est loin d'être anodin. On le rappelle, le LBD est une arme de précision qui ne peut neutraliser qu'une cible isolée. Il n'est donc pas adapté à la gestion pacificatrice d'une foule. En cela, le LBD transforme les pratiques des forces de l'ordre et encapsule un nouveau rapport au maintien de l'ordre en manifestation. On passe d'un maintien de l'ordre guidé par des pratiques de mise à distance et du contrôle de l'escalade des foules à des techniques d'isolement et de dispersion, le tout accompagné d'arrestations à la marge, mais en masse, sur le modèle des pratiques employées par ces unités en banlieue. Le LBD a donc fait du chemin depuis les guerres coloniales. Son implémentation dans la société civile est nécessairement synonyme de modification intrinsèque du nouveau milieu qui l'accueille. Ici, le LBD recompose la nature même du maintien de l'ordre.
Pensez la conception technologique avec les étudiants de l'UV HE10.
On s'aperçoit finalement que, contrairement aux espoirs initiaux, non seulement l'introduction des LBD n'a pas remplacé les armes à feu, mais elle a démultiplié la violence de la police. Pour comprendre cela, il faut aborder la notion de constitutivité de la technique. Cette notion va à l'encontre de l'idée selon laquelle tout objet ne serait un moyen neutre d'accomplir une action qui, elle en revanche, serait morale. Ainsi, en suivant ce mode de pensée, il serait possible d'associer tous les incidents et les accidents à l'arme en elle-même. Il serait impossible d'associer tous les incidents et accidents à l'arme en elle-même, mais il faudrait plutôt se tourner vers une mauvaise utilisation de l'outil ou un manque d'entraînement des équipes d'intervention. Le problème de cette vision, c'est qu'elle fait fi du fait que s'approprier une technique, c'est s'ouvrir à un mode d'expérience nouveau du monde. Dans les faits, nos fins, nos projets, nos désirs sont indissociables des techniques et des moyens d'action dont nous disposons. Pour illustrer ce propos, on peut prendre l'exemple du voyage. Selon qu'on soit à pied, à cheval, en voiture ou en vol supersonique, les notions de loin et de proche ne sont pas perçues de la même façon. Tout cela est loin d'être un détail. Ça implique que les techniques ne sont pas des ustensiles, des gadgets ou des choses utiles qui permettent de satisfaire des besoins et ou des désirs qui sont déjà existants, mais elles reconfigurent nos façons de faire et de nous comporter. Appliquer à l'étude des LBD, ça a toute son importance. En premier lieu, l'arme, elle réintroduit et elle réhabitue le policier, un geste qui est proscrit depuis les années 60, celui qui est de tirer, enfin de viser d'abord, puis de tirer ensuite sur quelqu'un, qui plus est, qui est un civil. À cela, il faut ajouter le fait qu'en vertu de la constitutivité de la technique, qu'on vient d'évoquer, l'utilisateur perçoit le monde par le prisme de l'outil. Avec un LBD entre les mains, il devient possible de tirer, littéralement, sur tous les problèmes. Main dans la main, ces deux éléments expliquent l'observation de Norm Stamper, chef de la police de Seattle entre 1994 et 2000. J'ai observé tout au long de ma carrière, dit-il, le phénomène de Boys with Toys. Une fois qu'on a acquis cet équipement, on veut l'utiliser. Tout ce phénomène doit être couplé à la recomposition du milieu du maintien de l'ordre qu'on a évoqué auparavant. L'introduction de la braque et de la bravem en manifestation, des sections dont les membres utilisaient déjà les LBD auparavant, qui avaient pour habitude de le faire, participe à l'évolution des pratiques du maintien de l'ordre. Chacun utilise les méthodes qui ont été employées jusqu'alors et dont on avait l'habitude. Mis bout à bout, il est aisé de comprendre pourquoi le volume de tirs d'armes dites non létales, intermédiaires, à létalité réduite ou sublétales, il y a plein de noms, a atteint des niveaux historiques au cours des derniers mouvements sociaux, depuis les gilets jaunes notamment, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur la santé des manifestants. Selon plusieurs observateurs, spécialistes du maintien de l'ordre, on dénombrerait entre le 17 novembre 2018 et le 17 janvier 2023 une centaine de blessés graves, parmi lesquels 71 liés à des tirs de lanceurs de balles de défense, pour le nombre d'entre eux irréversibles. Pourtant, le gouvernement persiste et signe, et multiplie les signes de confiance envers ses armes, comme en témoignent les commandes régulières de la part du ministère de l'Intérieur. La dernière, elle date de 2021, avec une commande d'environ 170 000 balles en caoutchouc.
Claude Guéant, j'ai été directeur général de la police nationale de 1994 à 1998. J'ai été ministre de l'Intérieur, donc je me suis souvent occupé d'affaires de police. Le flashball est apparu à l'époque comme une arme non létale qui permettait d'éviter l'emploi de l'arme à feu.
Pour ma part, c'était la première manif. Au fur et à mesure qu'on voyait les cordons de force de l'ordre, ils étaient là en train de dire « Ouais, faites pas trop les malins. Aujourd'hui, on a tous les droits, tous les droits. »
Allez, charge, charge.
C'est bon, c'est bon.
Une des choses que j'ai remarquées tout au long de ma carrière dans la police, c'est ce phénomène de petits garçons avec des jouets. Tout cet équipement militaire, quand on l'a acquis, on veut l'utiliser. Et je vous parle en tant que policier qui a porté l'uniforme pendant 34 ans.
Non seulement ce flashball puis ce LBD n'ont pas remplacé du tout les armes à feu, mais ils ont démultiplié la violence de la police. C'est-à-dire que le flashball et le LBD incarnent un changement dans la doctrine même de la police. On réhabitue les policiers à presser sur la détente en direction de quelqu'un. Mettre en joue, presser sur la détente, toucher un corps. Et ça, c'est pas un geste qui est anodin. C'est un geste qui était totalement proscrit depuis les années 60 en France.
Nous venons de voir comment les lanceurs de balles de défense ont transformé la perception du maintien de l'ordre, rendant plus facile l'appui sur la gâchette de tir et produisant ainsi une brutalisation des pratiques. Maintenant, intéressons-nous à une question cruciale. Pourquoi cette évolution semble-t-elle si difficile à inverser aujourd'hui? Pourquoi les LBD semblent-ils avoir encore de longs jours devant eux? On peut apporter un élément de réponse en abordant le concept d'inertie technique. C'est l'idée qu'une technologie, en devenant plus avancée et répandue, finit par développer une sorte de force qui la rend difficile à changer, même si la société le souhaite. En d'autres termes, plus une technologie devient mature, plus elle impose ses propres règles et contraintes aux dépens de sa réelle utilité sociale. Pour imager, c'est comme un train lancé à pleine vitesse, il est presque impossible de stopper ou de changer sa direction. Et pour exemple, remettre en question l'existence des voitures est impossible aujourd'hui tant elles ont accumulé une forte inertie technique. Appliquées au LBD, montrons qu'au-delà de la volonté politique, ces armes ont formé un système qui contient sa propre force, une force qui lui permettra de persévérer dans le temps. Les raisons de cette inertie technique sont multiples. Tout d'abord, l'introduction massive des LBD chez les forces de l'ordre implique une production massive en amont, soit une industrie. Une fois cette industrie en place, elle fait tout pour persévérer dans son existence. Elle veut continuer à produire et devient ainsi une entité qui va pousser au maintien des LBD dans nos pratiques du maintien de l'ordre. D'autant plus que, fait notable, on mutile Made in France, pour reprendre l'expression de Paul Rocher, l'économiste et auteur du livre « Gazer, mutiler, soumettre, politique de l'arme non létale ». En effet, l'industrie des armes non létales est dominée par un oligopole de 4 grosses entreprises, dont 2 sont françaises, Alcetex et Nobel Sport. L'industrie de l'armement est donc aujourd'hui une force de l'industrie française, une force de l'économie française. Cette inertie est d'ailleurs visible au niveau du budget du maintien de l'ordre. La dépense publique en matière d'armement des forces de l'ordre n'a cessé de croître. Au niveau de l'armement, on a observé une croissance du secteur autour de 10% chaque année durant la dernière décennie, et les dépenses du ministère de l'Intérieur en équipement et matériel ont augmenté de 180% entre 2012 et 2017. Bref, avec 2 des principales entreprises mondiales spécialisées dans les armes non létales, la France est placée au cœur de cette industrie. Quand on tire, on ne fait pas que maintenir l'ordre ou mutiler une personne, on alimente aussi un système économique. Au-delà de l'aspect industriel et économique, le problème est encore plus profond. Si la voie des lanceurs de balles de défense est si creusée, c'est aussi parce qu'on est en train d'ancrer des habitudes. L'utilisation des LBD s'est tellement généralisée qu'on ne saurait plus comment gérer certaines manifestations sans ces outils. Ici, le concept de shifting baseline ou amnésie générationnelle en français exprime bien cette idée. Chaque nouvelle génération accepte progressivement des pratiques autrefois jugées excessives, inutiles, superflues, et considérant maintenant leur emploi comme inévitable ou normalisé. Ainsi, tout comme on ne saurait plus conduire sans GPS, on ne saurait plus maintenir l'ordre sans les LBD. Le discours d'Antoine, un jeune policier, illustre ce phénomène. Début de citation. Si on supprime les LBD, il y aura des morts par balle. Je préfère qu'un mec perde un œil plutôt que de lui mettre une cartouche en tirant une vraie balle. Fin de citation. Et c'est bien le propos. Il ne peut plus s'en passer. Il ne sait plus comment faire sans. Alors qu'il y a 30 ans, l'idée de tirer sur une foule avec un projectile à haute vélocité aurait semblé absurde, aujourd'hui, c'est perçu comme un mal nécessaire. Pour résumer notre propos autour de l'inertie technique des lanceurs de balles de défense, ces nouveaux outils de maintien de l'ordre ont d'abord été la matérialisation de volontés politiques spécifiques. Mais, une fois intégrées dans les pratiques policières, une fois prises dans le tissu industriel, ces technologies s'institutionnalisent, deviennent des normes et pratiques enracinées dans le fonctionnement même du maintien de l'ordre, imposant ainsi leur logique et leur existence.
Pensez la conception technologique avec les étudiants de l'UV HE10.
Tout ce que nous venons de voir nous fait dire que les lanceurs de balles en caoutchouc sont un exemple frappant de technosolutionnisme. Le technosolutionnisme, aussi appelé solutionnisme technique, est un concept largement en vogue à l'ère des crises environnementales. Ce concept a été popularisé à partir de 2014 par Yevgeny Morozov. Avec celui-ci, Morozov critique la volonté des entrepreneurs de la tech qui souhaitent, je cite, « réparer tous les problèmes du monde via la technologie ». Par exemple, pour pallier la destruction des conditions de vie sur Terre, nous n'avons qu'à aller sur Mars, sans aucune certitude de la possibilité même d'habiter sur une planète totalement inhospitalière. Morozov ironise en écrivant « Pour tout résoudre, cliquez ici ». En somme, le solutionnisme technologique est cette fois inébranlable en l'innovation qui occulte totalement les causes sociales et politiques des problèmes. Le technosolutionnisme permet de perpétuer les mêmes dynamiques sans jamais penser le changement. Dans le cadre des armes non létales, le LBD est introduit comme une arme anti-bavure qui permettrait de faire diminuer la violence. La rhétorique est simple, certainement simpliste. Le LBD va remplacer l'arme à feu et permettre de faire peur aux voyous, ce qui provoquerait une désescalade de la violence. En réalité, l'emploi de celui-ci dans le cadre du maintien de l'ordre n'a non seulement pas remplacé les tirs par armes létales, mais a brutalisé le maintien de l'ordre. En effet, cette arme dite anti-bavure peut tout de même tuer, éborgner, fendre des crânes, arracher des mains. Mathieu Triclot, enseignant-chercheur à l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard, caractérise le technosolutionnisme selon 2 branches. D'un côté, le solutionnisme technique néglige les effets de l'implémentation d'une technique dans un milieu. De l'autre, le problème auquel est censé répondre la solution n'est lui-même pas posé en des termes pertinents. Ce problème attend-il une réponse technique ? Avec le LBD, on a élargi très fortement le cadre d'acceptabilité pour tirer sur un civil. On a réhabitué les forces de l'ordre à presser sur la détente. Comme en témoigne Norm Stempers, ancien chef de la police de Seattle, on observe ce phénomène de « boys with toys ». Lorsqu'on met une arme à disposition des policiers, les policiers s'en servent, même si cette arme mutile. Quand on a un marteau entre les mains, on voit tous les problèmes en forme de clous. Quand on a un LBD entre les mains, on voit tous les manifestants en forme de cible. Le LBD a totalement reconfiguré les doctrines de maintien de l'ordre. Cette arme rend acceptable de tirer sur des manifestants, de braquer sur la tempe d'un manifestant maîtrisé au sol un canon qui peut littéralement lui arracher la tête, comme nous avons pu l'observer dans la répression d'une manifestation à Gennevilliers en 2024. là où on n'aurait jamais imaginé tirer sur un manifestant à balles réelles, même si la manifestation déborde le dispositif policier, le LBD rend tolérable de tirer dans la foule depuis des quads, comme à Sainte-Soline, ou encore de tirer sur des manifestants inoffensifs, comme en témoignent de nombreuses vidéos des Gilets jaunes. Le LBD, plutôt qu'une arme anti-bavure, met une cible sur tous les manifestants. Le LBD, plutôt qu'une arme non létale, est une arme de mutilation massive. Ainsi, on voit que l'introduction du LBD, loin d'être anti-bavure, a augmenté la brutalité du maintien de l'ordre avec l'explosion du nombre de tirs au cours des dernières années. On en dénombre 19 000 lors des Gilets jaunes. L'effet du LBD sur son milieu n'est pas neutre. Le LBD a modifié en retour les doctrines de maintien de l'ordre. Pour autant, cette négligence de la constitutivité technique accompagne parfaitement le virage autoritaire des politiques publiques des dernières années. Pour reprendre les termes de Mathieu Triclot, le problème dans ce cas n'est pas la constitutivité en soi, mais le fait de la mettre sous le tapis. Technosolutionnisme est l'un des noms de cette opération d'ignorance délibérée. En effet, les doctrines de maintien de l'ordre coévoluent avec les moyens techniques mis à disposition des forces de l'ordre. Certes, le LBD influence les doctrines de maintien de l'ordre, mais les décideurs s'en accommodent bien, voire encouragent ces dynamiques. C'est bien Nicolas Sarkozy qui a décidé de cette stratégie offensive en, je cite, « portant le fer dans des zones de non-droit » et qui a souhaité, je cite encore, « des armes dont les policiers puissent se servir ». Ce sont bien les gouvernements successifs qui passent des commandes toujours plus importantes de cette arme jusqu'à la rendre indissociable du fameux maintien de l'ordre à la française. Afin d'éviter d'adresser les problèmes soulevés par les mouvements sociaux, les pouvoirs politiques se réfugient dans la course à l'innovation technique, censée ramener d'elle-même l'ordre. Pour autant, si la technique est la réponse, quelle est la question ? À quoi prétend-on répondre en portant le fer ? Quel est le sens dans un maintien de l'ordre militarisé, où les policiers ressemblent à des soldats, agissent comme des soldats, sont armés comme des soldats ? Les chercheuses et chercheurs Joyce et Michael Huseman ont classifié cette approche technosolutionniste comme une « social fixes ». On prétend répondre à un problème social et politique, en l'occurrence des révoltes urbaines, des manifestations de masse, par une réponse technique. Ici, les armes à balles en caoutchouc. Ce genre de social fixes est ainsi souvent court-termiste et s'attache aux symptômes en ignorant les causes profondes du problème. En somme, le réel problème. Pour préserver l'ordre établi, l'introduction du LBD a considérablement brutalisé la doctrine de maintien de l'ordre, avec à la clé de nombreuses mutilations causées par ces forces de l'ordre. Le LBD n'est pas la solution, promise pour un problème lui-même mal posé. Le LBD n'est pas une arme létale, non létale anti-bavure. Le LBD tue et encourage les mutilations abusives. Le LBD ne permet pas de répondre à la délinquance ni d'apaiser la société. En réprimant dans la violence et en s'enfermant dans sa radicalité, l'État utilise les LBD comme des armes de terreur qui ne servent qu'à mettre la poussière sous le tapis, quitte à ignorer délibérément le cœur du problème social et politique. Merci pour votre écoute. Pour aller plus loin, notre propos s'ancre largement donc dans les travaux du sociologue Pierre Douillard-Lefebvre, de l'économiste Paul Rocher, du philosophe des techniques Mathieu Triclot, ainsi que de l'historien Guillaume Carnino. Vous pourrez vous renseigner plus en regardant aussi l'excellent documentaire Arte au nom du maintien de l'ordre, dont on a diffusé certains extraits en introduction et au cours de notre intervention. Merci pour votre écoute.
Merci à tous les cinq. C'était donc une analyse critique des technologies de LBD, ici en l'occurrence menée par le groupe dispositif de maintien de l'ordre, donc du cours H10 Penser la conception technologique. Donc on avait en studio, je rappelle, Violette de Dourvergne, Mathis Leroy, Gaëtan Hiblot, Noam Seret et Marine Bouza. Merci encore à tous les cinq. Vous nous avez parlé de milieu, de constitutivité technique, d'inertie technique entre autres, et donc vous nous avez parlé de cela dans le cas du maintien de l'ordre en général et en particulier de l'introduction du LBD. Ce projet ainsi que les autres projets de H10 sont plus détaillés sur le site lonum.scenari-community.org/H10. Vous trouverez notamment les références citations mentionnées. Vous pouvez réécouter ces émissions sur graphite.net et d'ici quelques jours sur le réseau de partage de vidéos libres et décentralisées Peertube à l'adresse aperi.tube. Je vous donne rendez-vous d'ici une dizaine de minutes environ pour une seconde émission qui va nous parler de vidéosurveillance algorithmique ou comment les humains se surveillent entre eux avec des machines au milieu.
The one thing we need more than hope is action.
HE10, pensez la conception technologique à partir du livre « Prendre soin des milieux » paru aux éditions Matériologiques.